Chapitre 11. Le fantôme palpable. L'appartement fut trouvé boulevard Montparnasse au sixième étage. Il agréait à Stéphane, pour l'étendue qu'on apercevait des fenêtres, l'existence d'un réduit qui ferait une excellente chambre des mains et la proximité de la rue d'Assas. La date du déménagement fut fixée. Quelques jours auparavant, le logis de la rue Guidemer fut témoin d'un dernier épisode qui n'est pas le plus quelconque de cette bizarre aventure. Il était 1 heure du matin. Stéphane, rentré du concert pourpre, s'électrisait et Rosine cousait dans le fumoir à la clarté d'une ampoule coiffée d'un abat-jour peint sur soie par un artiste industrieux. 1 heure plus tôt, las d'avoir emballé dans des caisses une profusion de menus objets, elle avait passé dans la chambre à coucher et s'était dévêtue, après avoir remis dans leur coffre, comme elle le faisait chaque soir, les titres de ces charbonnages qui devaient un jour valoir 100 000 francs, mais qui pour l'heure n'étaient négociables qu'à 18 000. Comme elle décoiffait sa chevelure croulante, le souvenir lui était revenu d'un accroc que le clou d'une caisse avait fait à sa jupe. Presque joyeuse d'une occupation qui l'obligerait à veiller jusqu'à la rentrée de Stéphane, elle avait enfilé un ravissant peignoir de blonde et s'était mise à coudre dans le fumoir, sans plus s'inquiéter des valeurs. À vrai dire, elle y pensa bien une seconde, mais depuis qu'elle les surveillait de si près, il lui était arrivé 2 ou 3 fois de s'en écarter et rien de spectrophélique ni d'infrarouge ne s'était produit. D'ailleurs, le fumoir se trouvait contigu à la chambre à coucher. Ces deux pièces donnaient toutes les deux sur un large couloir, autant dire galerie. Elles ne communiquaient pas directement, mais en laissant ouvertes les deux portes du couloir, ce que fit Rosine, on entendait parfaitement de l'une ce qui se passait dans l'autre. Rosine souriait en cousant. Son mari était rentré de fort bonne humeur, satisfait de son nouvel emploi, content de s'être retrempé dans la pratique musicale. On entendait dans la chambre des mains le ronflement de l'électriseur. Stéphane ne se couchait jamais sans lui avoir demandé une dernière trémulation. Bien que cette chambre des mains fût située de l'autre côté du couloir, bien que l'appartement fût encore tapissé de toutes ses moquettes et drapé de tous ses rideaux, le ronflement de l'électriseur était assez puissant pour couvrir des bruits discrets, même assez proches. Rosine, plongée dans un rêve, ne s'en rendait pas compte. Elle s'aperçut trop tard que le silence absolu, son meilleur auxiliaire, avait lâché pied. La tête redressée d'un mouvement subit, elle présentait maintenant la fixité d'une figure de cire. Ce grincement qu'elle venait de surprendre, était-ce le premier? Y avait-il déjà quelque temps qu'un intrus agissait dans la chambre à coucher? La lampe n'éclairait qu'un coin du fumoir. Le reste de la pièce baignait dans la pénombre. La porte s'ouvrait sur des ténèbres. Rosine se leva sans bruit et le grincement reprenait. Son plan était courageux. Gagner silencieusement la porte de la chambre à coucher, là, tourner le commutateur, inonder la chambre de clarté, voir, savoir et parer. Mais tout cela sans qu'aucun geste fît un frisli, sans qu'un pas fît un craquement à cause de l'intrus qu'il fallait surprendre et de Stéphane qu'il ne fallait pas effrayer. Des tapis couvraient les planchers, épais, favorables, bénis. Stéphane, assourdi par son électriseur, n'entendait rien. Quant à l'intrus, elle avançait comme sur la glace douteuse d'un lac très profond, comme à travers un milieu plus pesant que l'eau même, les bras équilibreurs et les mains en éventail, ayant quelque chose d'une danseuse de cordes qui accomplit sa raie de traversée. Chemin faisant, avec la rapidité vertigineuse qui s'empare des idées aux instants très critiques, des évidences et des suppositions, entrecroisaient leurs éclairs dans son esprit. Allait-elle revoir Spectrophélès ? Était-ce lui ou quelqu'un fidèle ? Une ombre, un homme ? Mais alors un homme truqué, un homme infrarougi. Encore une fois, mais comment avait-on pénétré dans cette chambre ? Il n'y avait personne dans cette chambre quand on en était sorti. Depuis le vol des bijoux, elle avait soin de regarder sous le lit, derrière les rideaux, partout enfin, au moment de se coucher. Et elle l'avait fait aujourd'hui. Et elle l'avait fait 1 heure avant. Personne n'avait profité du retour de Stephen pour s'introduire dans l'appartement. Personne n'avait pu s'insinuer derrière lui, puisque, quand il était rentré, elle était là, dans le couloir, elle, Rosine, qui voyait ce que tout le monde ne voyait pas. En vain, son ennemi accumulait les exemples de sa subtilité, en vain, il multipliait à ses yeux et à son intelligence les preuves de ce don merveilleux qui lui permettait de traverser la matière la plus dense. L'étonnement de Rosine ne s'atténuait pas. Mais cette fois, aux prises avec un adversaire qu'elle sentait surprendre, empoignée par l'intérêt d'un combat moins inégal qu'à l'accoutumée, Madame Orlac était puissante d'un sang-froid non pareil. Elle venait de franchir le seuil du fumoir. En face, une raie de lumière indiquait la porte de la chambre des mains. L'électriseur ronflait allègrement. Du côté de Stéphane, donc, rien à craindre. L'entrée du fumoir et celle de la chambre à coucher n'étaient guère distantes que de 3 pas. Retenant son souffle, Rosine parvint au seuil de la chambre. Une obscurité impénétrable y régnait, mais au fond, vers la droite, vivaient des bruits grêles à peine perceptibles. Le placard, naturellement, le coffre aux valeurs. Mais si le cambrioleur n'était pas un esprit, il n'avait qu'une issue, la porte. La porte où Rosine se tenait, glissant sa main lente contre la boiserie, vers le commutateur. Elle l'atteignit et le tourna de mouvements nerveux, comme on presse la gâchette d'un revolver braqué sur quelqu'un. Le petit dispositif lâcha son déclic. Mais la lumière ne se fit point, et l'obscurité soudain muette fut redoutable. Rosine, prise au dépourvu, frissonna. L'être invisible, mis en alerte par le déclic, s'enfuya-t-il subrepticement par les vides de la fenêtre ou la pierre des murs ? Allait-il au contraire foncer vers la porte ? L'instinct de conservation, victorieux du courage, la poussait dehors, l'effaçait de la porte. Mais avant qu'il eût esquissé une retraite, une poigne terrible l'avait frappée. Une main formidable s'abattit sur sa bouche, tandis qu'une autre la tirait en avant dans la chambre à coucher. En moins d'une seconde, elle fut renversée, bâillonnée, entravée et ligotée, bref, annulée. Annulée ? Non, elle ne pouvait plus remuer. Un bâillon lui serrait les lèvres. L'obscurité lui mettait un bandeau sur les yeux, c'était vrai, mais si l'Hercule ténébreux ne l'étourdissait pas d'un coup d'assommoir, s'il lui laissait la sensibilité, elle l'entendrait bien s'en aller, ce malfaiteur qui ne savait pas franchir la substance solide, cet être qui n'avait pu s'évanouir sans bruit à travers la maison, cet humain qui venait de la toucher et qu'on pouvait toucher, qui possédait un corps tangible, volumineux, pesant. Les oreilles de Rosie n'avaient pas de bandeau, rien n'entravait son ouïe. Quoi qu'il en fût, tous ses nerfs attendaient le mauvais coup de poing qui l'étourdirait. C'était sa seule crainte, car si son agresseur avait voulu la tuer, il ne l'aurait pas ficelé et bâillonné. Ses effroyables pinces l'eussent étranglé sans lui laisser le temps de pousser un soupir. La vaillante femme n'essayait même pas de crier. Qui l'eût entendu ? Stephen, personne d'autre. Et que pouvait Stephen contre l'athlète inconnu ? Rien. Celui-ci devait le savoir. Pourtant, il avait bâillonné Rosine. C'était plus sûr. Car David eût tué Goliath d'une balle de Browning comme d'un galet de fronde. Le coup de poing redouté n'arrivait pas. Elle entendait vers le placard des frottements, des tintements confus. L'autre accomplissait sa besogne, il n'avait pas voulu partir sans l'avoir achevé. Rien ne prouvait qu'il s'en irait par la porte. Rosine l'avait gêné, voilà tout. Il s'en était débarrassé. Ce n'était pas pour fuir qu'il l'avait immobilisé. Cependant, il faudrait bien quitter cette chambre. Et Rosine prêtait l'oreille comme on écarquille les yeux, persuadée que si elle perçait le mystère de ce départ, elle aurait fait un grand pas vers la vérité. L'être qui fourrageait dans les ténèbres ne s'esquiverait pas comme Spectrophélès, dont il n'avait ni l'aspect, puisque Spectrophélès était servi de lieu serti de lumière, ni le silence. C'était peut-être Spectrophélès, mais sous une autre forme. Et à moins qu'il ne reprît son état spectral pour sortir de la chambre par infiltration, il était impossible qu'il y parvînt sans qu'un bruit quelconque révélât le prodige ou trahît l'artifice. Les quarts de seconde semblaient des minutes. Rosine, trompée sur la durée, blanchie de frayeur à la pensée que Stéphane était peut-être sur le point d'avoir fini son électrisation, et qu'il allait arriver sans se douter de rien, sans armes, sans précaution. Par bonheur, la machine continuait de ronfler. On n'entendait plus rien du côté du placard. L'être obscur se déplaçait. Rosine en fut avertie par une légère répercussion que la carpette propagea. Maintenant, il tâtonnait sur la commode, heurtant la cassette et le miroir. Écoute, écoute, Rosine. Il se rapproche, son pied touche le coude de sa victime, et quelque chose se passe, là, tout près, par terre. Est-ce donc par le plancher qu'il va s'enfuir? Rosine savait bien qu'elle apprendrait du nouveau. Il n'y a pas là, loin, tout contre le tapis, un ronron mécanique. La rumeur sournoise d'un appareil, le murmure arrondi des rouages qui tournent. Un sursaut convulsif l'agite. Tonitruante, formidable et soudaine, une musique infernale éclate à son oreille. C'est la fantaisie de Litz, jouée jadis par Stephen. Elle l'entend comme si elle était dans le piano. Étrangeté de la science et de l'industrie. En exécutant chez Tapé, frère, l'œuvre du regretté Onglois, Stéphane Orlac se serait-il jamais avisé qu'il assourdissait Rosine à travers l'avenir? Tous les espoirs s'évanouissaient. Le maudit phonographe bâillonnait les oreilles de l'infortuné. Le piano endiablé et l'orchestre en délire tendaient leur vacarme comme un écran tapageur entre son attention et la fuite de l'intrus. Elle ne saurait rien. Spectrophélès ou quelqu'un de sa bande l'avait proprement évincé. C'était, si l'on peut dire, le phonographe de Fualdès. L'audition forcée ne dura pas longtemps. Rosine vit tout à coup s'allumer le lustre électrique. Stéphane accourut, se penchait sur elle, après avoir arrêté le phonographe. « Qu'est-ce qu'il y a ?» répétait-il. Se disant, il dénouait le baillon, qui n'était autre chose qu'une chemise de batiste raflée dans le placard, et défaisait les liens où l'on reconnut les cordelières des rideaux. La chambre était parfaitement vide. « Tu n'as vu personne ?» dit Rosine, encore assise sur la carpette. « Tu n'as pas de mal ?» disait Stéphane. Non, mais tu n'as vu personne sortir d'ici, traverser le couloir, ouvrir la porte d'entrée ou filer par la cuisine? Personne. C'est toi qui as donné la lumière ici? Bon, pas du tout. J'ai entendu une phonographe, cela m'a surpris. J'ai ouvert ma porte, la chambre à coucher s'est éclairée. Je t'ai aperçu couché par terre, je n'ai fait qu'un bond. Non, il n'y avait personne. Mais le couloir était sombre, dit Rosine. Le voleur s'y cachait. Et comme le compteur électrique est près de la porte d'entrée, il a dû rétablir le courant avant de fuir. Le courant, mais Rosine, ma lampe à moi n'a pas cessé d'éclairer. Et puis je n'ai rien entendu. Rosine fronça les sourcils, elle ne comprenait plus. Les faits, encore une fois, s'enveloppaient de mystère. Là, il faut chercher, déclara Stéphane. La jeune femme secoua la tête. Ils firent le tour de l'appartement, descendirent et montèrent le grand escalier et l'escalier de service. Ils furent terre dans toutes les caches possibles, le revolver à la main, vainement. Tout reposait. Et si les choses prenaient une espèce de physionomie énigmatique, c'est que leur imagination la leur prêtait. Ils revinrent dans la chambre à coucher. Nous a-t-on volé, dit Stephen. Crois-tu qu'on a eu le temps de cambrioler le placard? Il faut voir. En tout cas, les coffres sont intacts, c'est bon signe. Triste conjoncture pour l'aimante Rosine. De quelle âme Stephen allait-il accueillir la ruine? Triompherait-il de l'abattement? D'autre part, il porterait plainte, c'était fatal. Et alors, comment expliquer en justice que les bijoux avaient été volés antérieurement aux valeurs, qu'elle avait connu ce premier vol et qu'elle n'en avait rien dit? Stéphane lui pardonnerait-il d'avoir poussé l'amour jusqu'à la dissimulation? Les clés étaient à leur place dans les profondeurs secrètes du bureau directoire. Le voleur ne s'en était pas servi, ou bien, hypothèse plus douteuse, c'est qu'il les avait réintégrés. Tu trembles, dit Stéphane, laisse-moi faire. Il prit les clés. Et c'est vrai qu'elle tremblait. La réaction se produisait, et Rosine, si brave dans le danger, si valeureuse en face d'une hostilité présente et indiscutable, était sans résistance devant les malheurs possibles, les périls vaguement pressentis, les assauts de l'insaisissable. Un rôdeur, le couteau tiré, l'eût trouvé de sang-froid, mais pour une menace, un signe, un fantôme, ses forces l'abandonnaient et ses yeux voyaient noir. J'étais sotte de ne pas garder les titres avec moi, songeait-elle appuyée au montant du lit. Bon, s'écria Stéphane, les titres sont là. C'était d'ailleurs probable puisque la serrure n'est pas fracturée. Oh, les titres étaient là. La joie de Rosine, mêlée de surprise, s'augmenta de l'espoir qu'elle pourrait cacher à Stéphane la soustraction des bijoux. C'était certain, dit-elle. On ne te donne pas la peine d'ouvrir l'autre coffre, va, c'est la même chose. Tu vois bien qu'on n'y a pas touché non plus. La fin de sa phrase expira. Elle fixait quelque chose d'un œil hypnotisé. Ses regards errants avaient rencontré un petit cadre d'acajou posé sur la commode entre le miroir et la cassette. Ce cadre contenait d'habitude la photographie de Maman Monet. Mais cette nuit, ce qu'on y voyait ne ressemblait guère à la brave marchande de musique. C'était le portrait d'un personnage long et mince, vêtu de blanc, tout droit. Elle se traîna jusqu'au bureau, saisit l'objet et le mit dans son sein. Stéphane n'avait pas vu le mouvement. Du coffre aux bijoux, ils sortaient un à un, le collier de perles, les pendants d'oreilles en brillant, des broches, des fibules. Bon, je crois que rien ne manque, disait-il. Peux-tu t'en assurer? Eh bien, qu'as-tu? Oh, ce qu'elle avait, mais comment l'eût-elle décrit? Les émotions s'abattaient sur elle comme les pierres d'une avalanche. Était-ce un rêve? Vivait-elle un conte des mille et une nuits? Spectrophélès avait rapporté les bijoux. Tiens, mes bagues, dit Stéphane, je les croyais bien disparues à la suite de la catastrophe. Et il les passa. Rosine alors fut prise d'une crainte superstitieuse. Ces bijoux volés puis restitués, mais qu'en avait-on fait dans l'intervalle du vol et de la restitution? Quel traitement scientifique ou maléfique avait-il subi? Mais pourquoi remets-tu les bagues? Dit-elle aussi naturellement qu'elle le put. Est-ce que cela ne te gênera pas pour tes massages et tes exercices continuels? Bon, je les enlèverai quand il faudra. Trop content de retrouver mon alliance. Il regardait briller l'halo symbolique, et prenant sa femme dans ses bras, il la serra tendrement contre lui. Rosine sentait le cadre s'incruster dans sa chair. Insister pour que Stéphane enlevât ses bagues eût été malhabile. Au surplus, les appréhensions de la jeune femme, touchant cette alliance et cette chevalière, ne laissaient pas d'être romanesques. Elle se l'avouait et ressentait quelque honte à ne pouvoir les chasser. Elle se dégagea et dit « Nous n'avons pas refermé le verrou de sûreté à la porte de service. J'y vais. « Bon, je t'accompagne, on ne sait pas ce qui peut arriver. » La cuisine, propre et bien rangée, offrait l'image de la sécurité. Rosine, feignant d'inspecter l'armoire, glissa le cadre prodigieux derrière les tasses à chocolat. En revenant, elle eut l'idée d'examiner le compteur électrique. Les plombs de garantie étaient intacts. Rosine fit jouer le système, qui éteignit et ralluma toutes ensemble les lampes du couloir et les chambres, y compris la chambre à coucher. Le compteur fonctionnait à merveille. Stéphane alors dévissa le commutateur de la chambre à coucher et n'y trouva rien de suspect. « Ben, je voudrais bien savoir ce qu'on est venu faire ici, » dit-il. « Moi aussi. » ajouta Rosine d'une voix mal assurée. J'aviserai le parquet de demain matin. Voilà bien ce qu'elle redoutait. On allait faire une enquête et lui faudrait encore mentir, mentir sous serment, commettre un faux témoignage pour cacher le vol des bijoux. Et si l'enquête aboutissait à la découverte de ce vol? Et si ce vol, si la restitution des bijoux allait mettre la police sur la piste de la bande infrarouge et de son chef inexplicable? N'était-il pas dangereux d'attirer l'attention sur les persécuteurs de Stéphane? N'était-ce pas l'attirer sur Stéphane lui-même? Il ne semblait pas s'en rendre compte. Mais ce calme qu'il montrait pouvait être joué. Il tremblait peut-être derrière cette façade. Il était peut-être effaré de cette démonstration où la puissance de ses ennemis venait tout à coup de se manifester. Ignorant du vol et de la restitution, il ne voyait là qu'un échantillon du pouvoir antagoniste, une menace, un signe. Mais cela suffisait peut-être pour qu'il fût rempli d'inquiétude. Rosine, sans le regarder, lui dit avec une aisance relative: crois-tu vraiment qu'il soit nécessaire d'avertir le parquet? En somme, de quoi nous plaindrions-nous? D'une violation de domicile, bien, et la prouver. Mêler la police à nos affaires, oh, moi je crois que ça n'en vaut pas la peine. Bon, nous verrons demain, dit Stéphane après un silence. Tout en parlant, Rosine replaçait les bijoux dans le coffre. Elle palpa soigneusement le fond et les parois métalliques. Une carte était plaquée contre l'une d'elles. Frémissante à la pensée que Stéphane aurait pu la trouver, Rosine eut le temps de lire. la bande infrarouge et rejeta la carte au milieu des joyaux. Cependant, Stéphane dormit assez mal. Rosine put le constater car elle ne dormit pas. Le surnaturel lui était en quelque sorte indigeste. Mais pourquoi vouloir à toute force que ces choses fussent surnaturelles, ou plutôt qu'elles fussent extraordinaires, puisque le mot surnaturel implique la non-existence dans le domaine de la réalité? Pourquoi ne pas chercher à tout prix une explication ordinaire? Elle la cherchait, ne la trouvait pas et revenait constamment à l'acceptation de phénomènes scientifiques encore étrangers à la plupart des hommes. Elle résolut de faire coucher Regina dans l'appartement. Cette fille avait de la décision et de l'entendement. Présente, elle aurait peut-être surpris la fuite de l'inconnu. En dépit de la carte collective, Rosine avait fort bien saisi que la bande infrarouge n'avait été représentée que par un seul bandit, un seul et qui ne pouvait s'en aller qu'en faisant du bruit. Le phonographe en était la preuve. Quoique... Mais non, le phonographe ne prouvait rien. L'homme l'avait peut-être employé pour faire croire que sa sortie ne serait pas silencieuse alors qu'elle l'avait été. Stratagème des stratagèmes. Oh, on ne saurait dire toutes les conjectures qui enfiévrèrent l'insomnie de Rosina Orlac. Regina interrompit cette vaine agitation. Le matin resplendissait. La servante apportait le chocolat. Et sur le plateau, Rosine aperçut le cadre qu'elle avait nuitamment dissimulé derrière les tasses. Elle sauta du lit au moment où Regina, qui avait trouvé l'objet dans l'armoire de la cuisine, le remettait tout bonnement sur la commode. Stéphane sommeillait encore. Oh, c'était une chance. Mais dans le cadre d'acajou, il n'y avait plus que l'image souriante de Maman Monet. Rosine s'habilla dans un état d'esprit singulier. Cette fois-ci, malgré le grand jour, malgré la limpidité matinale de sa pensée, le surnaturel ou l'extraordinaire la subjuguait. Un être, à la faveur de l'obscurité, s'était introduit dans sa chambre. À la lumière, elle n'en avait trouvé d'autre trace qu'une forme réduite dont l'aspect était celui d'une photographie. Elle avait transporté elle-même ce simulacre hors de la chambre. Et maintenant rien ne subsistait du passage mystérieux, ni photographie, ni quoi que ce fût. Spectrophélès, énigme redoutable. La carpette, soulevée, laissa voir le tapis de fond indemne, sans coupure, sans brûlure, feuilletissant d'un bout à l'autre de la pièce un obstacle impénétrable. Quand Stéphane eut quitté la place, Rosine prit les bijoux, détruisit la carte de la bande infrarouge et se rendit tout droit chez le joaillier qu'elle connaissait. Un doute lui était venu pendant la nuit. « Ces perles sont-elles vraies ? » demanda-t-elle au spécialiste. « Mais comment donc, madame, ce sont celles que j'ai vendues à M. Orlac il y a bientôt 2 ans. »« Et c'est brillant. Tout ce qu'il y a de plus vrai. » À la détente de ses nerfs, elle sentit combien ils étaient crispés depuis la veille. « Par curiosité, dit-elle, combien donneriez-vous de tout cela ? » ?»« Bon, la perle a baissé ces temps-ci et le diamant n'est pas demandé. » 30 000 francs, parce que c'est vous. » Elle s'y attendait. Jamais 203, avait-elle pensé. 1, les valeurs. 2, les objets d'art. 3, les bijoux. 30 000 au lieu de 65 000. Oh, la guigne était complète. Le jour même, elle se para de ses bijoux, voulant expérimenter leur influence possible. La bravoure se cachait sous la coquetterie. Elle les porta tous à la fois, par une sorte d'intrépidité. Elle s'attendait un peu à ce que le collier l'étranglât brusquement. Les bracelets n'allaient-ils pas lui briser les poignets, et les bagues lui broyer les phalanges? Elle crut sentir la morsure des broches et la piqûre des épingles. Les brillants semblaient deux tisons prêts à calciner le lobe de ses oreilles. Mais les joyaux n'étaient pas enchantés, et le soir vint sans qu'elle eût souffert le moindre supplice. Stephen, par contre, se montra dès lors si fantasque et si sombre que toutes les suppositions furent permises.